Océane. Légende bretonne.
Et aujourd'hui, plongeons-nous dans l'univers des manoirs et châteaux hantés de la région. Et ils sont certainement beaucoup plus nombreux que vous pouvez l'imaginer. Un homme, membre de l'Association des écrivains bretons, peut en attester puisqu'il a longuement travaillé sur le sujet pour en faire un ouvrage complet et simplement baptisé « Châteaux et manoirs hantés de Bretagne » aux éditions Stéphane Batigne. Bonjour Claude Guillonfray.
Bonjour.
Vous êtes donc l'auteur de ce livre dont je parlais à l'instant, dédié à ces lieux si particuliers, 40 au total, répartis sur toute la Bretagne. Vous allez bien sûr ici nous livrer quelques-unes de ces histoires si particulières. Mais d'abord, vous qui avez mené une carrière au Finistère des Finances, après avoir obtenu une licence en sciences économiques, une licence d'histoire, vous êtes également poète et vous avez tenu pendant 4 ans le poste de vice-président de l'Institut culturel de Bretagne. Qu'est-ce qui vous a pris, après tout ça, de vous intéresser à ces manoirs et châteaux hantés au point d'en faire un ouvrage entier? Quel a été le déclic pour vous?
Alors, je suis guide bénévole dans une petite cité de caractère.
À Quintin, c'est ça.
Et je suis dans les vieilles pierres, c'est mon bain quotidien. Et puis j'ai donc coécrit avec deux autres auteurs il y a 3 ans un ouvrage qui s'intitule Les rues de Quintin aux éditions Stéphane Batigne. À cette occasion, j'avais rencontré Stéphane Batigne et nous avons sympathisé. Et dans sa maison d'édition, il a une ligne éditoriale qui porte sur les croyances populaires. Et alors, vous voyez, entre les vieilles pierres et les croyances populaires, il y a eu un déclic chez moi. Je me suis dit, mais effectivement, on peut parler des histoires de fantômes en lien avec tous ces châteaux dans lesquels il y a des histoires bien situées dans l'espace. Il y a donc tout un vaste sujet à développer. Voilà le point de départ. En ajoutant un petit peu, pour compléter ma vision des choses, dans tous ces lieux bien précis qui sont dans les 5 départements bretons, il y avait en général des personnages réels qui ont pu être à l'origine de ces histoires de fantômes. Donc l'idée, c'était de retrouver, de creuser un petit peu dans le temps pour voir qu'est-ce qui a pu générer ces histoires. Voilà le point de départ de mon travail.
Très bien, ces échanges donc avec Stéphane Batigne qu'on salue, la maison d'édition qui est basée du côté de Questembert en Morbihan d'ailleurs. Et alors, pourquoi en particulier la Bretagne? On est vraiment particulièrement gâté dans la région en matière de châteaux hantés?
Alors, je n'ai pas fait de comparaison avec d'autres régions.
D'accord.
Maintenant, c'est vrai que si on pense à l'Écosse, si on pense à la Grande-Bretagne, c'est vrai que ce sont des pays qui sont très riches en dans ce domaine. Et la Bretagne, dans mon idée, il fallait faire la recherche. On sait que dans la vision habituelle que les voyageurs ou les touristes ont en venant en Bretagne, il y a le terme de terre de légende qui vient tout de suite à l'esprit. C'est un petit peu un poncif, si on veut.
Bien sûr.
Donc dans ces histoires de légende, voilà, qu'existait-il en matière de fantômes dans les différents châteaux de Bretagne? J'ai été amené à creuser ça.
Bon, Claude Guillonfray, je vous propose de rentrer dès maintenant dans le vif du sujet, puisque vous nous avez sélectionné quelques-uns de ces sites et histoires particulières. On va se rendre aux 4 coins de la région. Et d'abord, direction le château de Trévarez, je crois, on est en Finistère.
Voilà, oui, Trévarez. Alors, je suis allé dans la plupart des châteaux qui sont évoqués dans le livre.
D'accord.
Soit de l'extérieur, soit à l'intérieur, mais certains aussi sont en ruine. Mmh. Alors, quant au château de Trévarez, bon, il est bien connu, c'est un grand domaine, mais il ne s'agit pas du château du XIXe siècle que l'on peut visiter, mais il s'agit du petit manoir ancien qui est dans le domaine de Trévarez. Et ce petit manoir appartenait à Louise Dubot du Grégo, donc noble dame qui avait épousé le vicomte de Pont-Bellanger avant la Révolution. Et lorsque la Révolution survient, le vicomte de Pont-Bellanger part en Angleterre, il émigre comme beaucoup de nobles à l'époque. Sa femme reste en France et elle fait la connaissance du général Hoche. Entre-temps, son mari débarque à Quiberon, il se joint à l'expédition des émigrés qui, aidés par l'Angleterre, veulent reprendre le combat contre les républicains. Et Hoche les attend de pied ferme et il parvient à anéantir ce débarquement. Et les historiens ont pu établir que les renseignements dont Hoche avait disposé, il les avait obtenus tout simplement dans le lit de Louise Dubot de Grégo, car il était devenu son amant, et elle lui avait livré des renseignements extrêmement importants sur cette opération. Bon, le vicomte de Pont-Bellanger en a échappé, il a combattu encore un peu en Bretagne avant de mourir quelques mois plus tard. Donc Hoche a pu rejoindre sa belle, pour autant il est mort quelques temps après en Italie, et la veuve, Louise Dubot de Grégo, a fini par épouser un général d'Empire, le général Bonté, qui s'est installé a préparé.
Son troisième homme, donc, si j'ai bien compté.
Un troisième homme, c'est ça. Et Louise Dubot, qui était devenue Madame Bonté, n'était pas du tout aimée de ses paysans. Elle était très dure et elle avait laissé un souvenir extrêmement négatif. Et à sa mort, le manoir de Trévarez était infesté de bruits inexplicables. Il y avait des manifestations que personne ne pouvait arriver à expliquer. On disait que la maison était hantée. Et ça a duré pendant des années, ces phénomènes. Il a fallu que l'on appelle le curé du Lave, qui est venu pratiquer un exorcisme. Et dans un écrit de Bernard de Parade, il indique précisément comment a pratiqué le curé du Lave. Il s'est trouvé face à ce fantôme, il lui a lancé une étole autour du cou. Le fantôme s'est transformé en chien noir. Le chien noir était emmené dans la profondeur des bois. Et là, il est question d'un cercle tracé au sol dans lequel on a placé le chien qui s'est enfoncé dans les feux de l'enfer. Voilà comment cet exorcisme a permis de nettoyer le manoir de Trévarez de ce fantôme.
Vous avez là-dessus une somme de détails impressionnants d'ailleurs. Et puis évidemment, tout ça est très complet dans le livre. Hein, Et on poursuit maintenant, après Trévarez, donc là on était en Finistère, on poursuit notre tour de ces lieux hantés de Bretagne, côté est, hein, du côté de Châteaubriant.
Oui, alors donc, les châteaux bretons, il y en a dans les cinq départements qui composent la Bretagne historique. Mm-hmm. Un interlocuteur m'a dit, mais c'est presque un Trouble-Braise de la Bretagne par les châteaux hantés, si on veut. Et donc, Châteaubriant, donc, très belle demeure, qui appartenait donc à cette ancienne famille de Châteaubriant avec un T. Et donc au début du XVIe siècle, la comtesse de Châteaubriant, qui était une femme très belle et très cultivée, avait été appelée à la cour et le roi François Ier s'était épris d'elle et il avait fait de la comtesse de Châteaubriant, il avait fait sa maîtresse. Sans se priver d'envoyer son mari guerrouiller en Italie, de manière à ne pas être inquiété.
Décidément, il valait mieux pas se rendre en Italie à cette époque.
Hein. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, bon, François Ier décide de changer de dame de cœur, et Françoise de Châteaubriant doit retourner dans son château de Bretagne. Et son mari a très mal pris ces circonstances, et Françoise de Châteaubriant meurt quelque temps après. Et très vite, le bruit a couru dans la campagne que son mari avait assassiné Françoise de Châteaubriant. Les chroniqueurs, dès le XVIIe siècle, évoquent des histoires assez particulières. On écrit que le mari avait saisi sa femme avec l'aide de deux chirurgiens et d'hommes habillés en noir et masqués, et qu'il l'avait enfermée dans une pièce pour la saigner. Oui, ce sont des histoires qui sont déjà très anciennes, qui remontent à 300 ans en arrière. Mmh. Et puis, au fil du temps, cette histoire s'est accrue d'autres détails. Il est dit à présent que le jour du 16 octobre, date de la mort de la comtesse, la nuit, à minuit, un cortège survient dans le château. Des prêtres précèdent le roi François Ier, qui tient Françoise de Châteaubriant par la main. S'en suivent des chevaliers en armure, et puis les diables qui suivent ce cortège avec le comte de Châteaubriant qui marche dans une mare de sang. Bien, ces histoires ont été évidemment rajoutées au fil du temps, et j'ai trouvé qui en est l'auteur. Cette dernière scénographie est due à un écrivain qui s'appelle Gustave Toudouze, qui vivait au XXe siècle. Voilà, les histoires de fantômes s'embellissent et s'enrichissent au fil du temps. Il était intéressant de remonter la source pour voir qu'est-ce qui en était au départ.
Et justement, on poursuivra cet échange la semaine prochaine avec Claude-Guy Onfray pour comprendre sa démarche, hein, mais aussi revenir sur l'histoire d'autres lieux hantés de notre région, notamment du côté de Brocéliande. Claude-Guy Onfray, auteur de Châteaux et manoirs hantés de Bretagne, c'est aux éditions Stéphane Batigne.